nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Emmanuel Robles, né en Algérie en 1914, est un écrivain français mort en 1995. Ami d'Albert Camus, de Gabriel Odizio ou encore de Max-Paul Fouché, il rejoignit le groupe d'écrivains qui se réunissait chez l'éditeur et libraire Edmond Charlot, l'un des personnages clés de la littérature française, qui fut l'éditeur de la France libre durant l'occupation. Emmanuel Robles gagna sa vie comme journaliste. Il était licencié d'espagnol et fut l'un des tout premiers à traduire Federico Garcia Lorca. Pendant la guerre, il dut interrompre ses études et devint correspondant de guerre. Il partit pour la Corse et l'Italie avant de participer à des missions de bombardement sur l'Italie du Nord et les îles de l'Adriatique occupées par les Allemands. En 1947, Robles rentra en Algérie et créa la revue Forge, dans laquelle il publia de grandes signatures comme celle de Mohamed Dib ou de Kateb Yassine. Et en 1951, il fonda aux éditions du Seuil la collection Méditerranée. Romancier important, Benuel tira un film d'un de ses livres intitulé « Cela s'appelle l'aurore ». Emmanuel Robles était membre de l'Académie Goncourt. En 1968, le producteur Jean-Vincent Bréchignac enregistra avec lui une série d'émissions consacrées à ses livres de chevet, parmi lesquels le Don Quichotte de Cervantes tenait une place de tout premier plan.
Dans cette espèce de portrait de vous-même par vous-même, qu'est cette émission du livre de chevet, Emmanuel Robles, je crois que nous avons d'abord très bien fait de commencer par la poésie de langue espagnole, puis nous avons parlé de votre ferveur à l'égard de Garcia Lorca, mais je vois dans votre bibliothèque, puisque j'ai le plaisir d'être chez vous, de nombreux ouvrages consacrés à Cervantes. Je suppose donc que Cervantes a également joué un rôle très important dans votre formation et dans votre vie.
C'est exact parce que j'ai commencé à lire Cervantes dans les éditions réservées aux adolescents, c'est-à-dire recréées à l'usage des adolescents, et d'élaborer ses aventures pour simplifier quelles étaient à l'époque m'avait fortement retenu et par endroits, je peux dire, enchanté. Mais lorsque j'ai pu lire le texte, lorsque j'ai pu pénétrer dans ce livre qui commence ainsi, je le lis parce que c'est toujours pour moi la même émotion, cette introduction du grand livre dit « En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, a larga antigua, rosin flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó en las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de los mismos, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de los más finos. Pour moi, il y a une musique des mots, une chose qui pour moi est véritablement enchanteresse. C'est pourquoi, dès l'âge de 18 ans, j'ai commencé à collectionner, petit collectionneur, rassurez-vous, petit collectionneur, mes moyens étant toujours réduits, et les belles éditions étant rares et chères, j'ai tout de même réuni plusieurs volumes de Cervantes dans de belles éditions espagnoles, hispano-américaines aussi, dans de belles éditions françaises, et puis toute une série de traductions par les meilleurs traducteurs français, Viardot, Miomandre, Bablon, Cassou. et puis aussi toute une série d'ouvrages consacrés à Don Quichotte. Et vous savez qu'à la bibliothèque de Mexico, de la Universidad Autónoma de México, j'ai pu avoir entre les mains une bibliographie des essais consacrés au Quichotte, et rien qu'au Quichotte, je ne parle pas des autres œuvres, n'est-ce pas, par exemple des nouvelles ou du théâtre de Cervantes, simplement au Quichotte. Eh bien, le nombre d'ouvrages est si important qu'il vient loin derrière ceux consacrés à la Bible, loin derrière, mais tout de même après la Bible. Il vient le deuxième après la Bible aussi pour le nombre de traductions. Et après, me disaient les gens qui me faisaient visiter la bibliothèque, après vient Lénine et ensuite les lettres de Napoléon. Voilà les statistiques de l'université autonome. Mais tout cela loin derrière le Quichotte. En tous les cas, il est le deuxième après la Bible qui, elle, est le livre des livres. Tout ceci pour vous dire que si la Bible n'est pas, peut-être hélas, mon livre de chevet, je considère, moi, le Quichotte comme ma véritable Bible. Toute ma formation d'homme, je la dois bien sûr à beaucoup d'autres lectures et à de nombreux maîtres, c'est vrai, et aussi à la vie qui est la meilleure université. Mais je crois que j'ai puisé beaucoup de choses dans ce livre de Don Quichotte, et je vais m'efforcer d'expliquer pourquoi. D'abord, tout le monde sait ce que représente Don Quichotte. Tout le monde sait quel est le mythe créé par Cervantes. Don Quichotte est un homme qui est à la charnière entre deux mondes. D'une part, il y a ce monde médiéval qui peuplait le ciel, qui projetait certains mythes en avant de soi. Et puis, le monde moderne avec un ciel vide. Eh bien, Don Quichotte est déjà mort tragique à cause de cette préconscience de ce monde qui se vide. D'ailleurs, si vous prenez le cas d'un Christophe Colomb, lorsque Christophe Colomb arrive aux Caraïbes, eh bien, il a déjà des structures mentales qui s'apparentent exactement à celles d'une créature de fiction telle que Don Quichotte. Car, si on lit les lettres qu'on a conservées de Cristóbal Colón, lui aussi projetait son rêve intérieur sur la réalité. Et il voyait, en débarquant à San Salvador, il voyait, lui, de grandes villes avec des mosquées, grandes ciudades con mezquitas, là où il n'y avait que des misérables cahutes d'Indiens, des petites cités lacustres très médiocres et dévorées par les maladies. Mais il dit dans ses lettres, il écrit au roi, et ce n'est pas pour tromper le roi, ce n'est pas pour mentir, il était sincère, il voyait. Il était un voyant parce qu'il projetait ce monde intérieur qui était déjà nourri de lectures, de tous les fantasmes qu'un Moyen-Âge halluciné avait accumulés en lui. Don Quichotte, c'est cela. Et Sancho Panza, c'est l'inverse. Sancho Panza, c'est le terre-à-terre. Mais le terre-à-terre, au sens vrai du terme, je ne mets rien de péjoratif dans le terre-à-terre. Il est au ras de la terre. Et Don Quichotte, lui, veut s'en évader. Et l'autre le ramène chaque fois. Et pas seulement Sancho, mais les événements le ramènent chaque fois au ras de la terre, non pas au ras du sol, au ras de la planète. Et par là, il m'émeut beaucoup. De plus, le génie de Cervantes est tel qu'au-delà de cette grande figure qu'il a créée, il y a des centaines d'autres figures, toutes intéressantes. Les seigneurs, les forbans, les aubergistes et les filles d'auberge, tout ce petit monde et ce grand monde, si vous voulez, tous les grands d'Espagne et les gens du peuple, nous sont recréés par un homme qui savait observer, et j'ajoute par un homme qui était extrêmement bon et qui avait beaucoup souffert. C'est toute une expérience de vie que contient Don Quichotte. Il est bon de dire qu'un homme comme Cervantes n'a jamais refusé de s'insérer dans le monde, qu'il a participé, nous dirions aujourd'hui, qu'il a été un homme engagé. Pour prendre la terminologie actuelle. Oui, il a été engagé, c'est un homme de petite extraction, un hidalgo, un homme de petite noblesse, et qui s'était engagé d'abord comme soldat, puis on le sait, il y a la légende de l'épante, où il a combattu courageusement. Un homme de grand courage, puisqu'il était malade, il faut le dire, il était malade, il aurait pu se dispenser de participer au combat. Et tout fiévreux qu'il était, il est monté avec ses armes et il a reçu 3 coups d'arquebuse, dont 2 à la poitrine, et un qui lui a déchiqueté la main. Il était donc manchot, et cette blessure, cette mutilation, bien sûr, l'a handicapé pour une carrière militaire. Il était obligé d'abandonner sa carrière militaire. Et c'est quand il revenait en Espagne qu'il a été pris par des pirates barbaresques et conduit à Alger comme captif. Là encore, c'est une très grande expérience. 5 années de captivité dans les bagnes d'Alger, où sa conduite a été extraordinaire, car il a toujours cherché à s'enfuir. Il y a eu plusieurs tentatives d'évasion, toutes connues, toutes répertoriées, et toutes dans des circonstances qui prouvent sa noblesse de cœur. Et par exemple, chaque fois qu'il était repris, bien, il était battu, il était mis en cellule, et puis il risquait sa vie. Et toujours, il refusait de dénoncer ses complices. Cette attitude-là, le père Haedo et d'autres témoins de sa captivité l'ont relaté et prouvent qu'il s'agissait d'une grande âme. Par la suite, eh bien, il est revenu en Espagne sans pouvoir obtenir un emploi à hauteur de ses mérites. Il a eu de petits emplois, il a vécu misérablement, mais il avait tout de même la passion d'écrire. Il a commencé par des œuvrettes, puis des œuvres plus affirmées. Sa carrière elle-même s'est tout de même assise au point qu'il est devenu, on dirait aujourd'hui, une sorte d'écrivain professionnel, pour aboutir en 1605 chez Francisco de Robles, Librero del Rey, Nuestro Señor. Son premier éditeur, eh bien, était mon homonyme, ou je puis dire que c'est moi qui suis l'homonyme, puisque je m'appelle aussi François. Francisco de Robles a publié donc la première partie du Quichotte. Et ça a été le succès européen que vous connaissez. Il y a eu d'abord toute l'Espagne, bien sûr. Les éditions se sont multipliées, puis on l'a traduit en France, etc. En Allemagne, en Italie. Ce livre-là n'a jamais cessé d'être vivant dans les esprits. Et c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a cette somme d'expériences humaines absolument étonnantes et cette manière de dominer le malheur. C'est cela aussi que je trouve tonique dans le Quichotte. C'est pourquoi il est mon livre chevet. C'est qu'aux heures noires, eh bien, il y a des pages du Quichotte qui sont véritablement un baume. Bien sûr, je vais vous lire le début, la description de ce chevalier d'aventure, ce Don Quichotte, dont le vrai nom, vous le savez, était Alonso Quijano ou Quijana. Véritablement, c'était une créature imaginaire, mais cependant, tout imaginaire qu'elle fût, elle était assez calquée sur ce que devait être un hidalgo de l'époque. Sans doute quelqu'un ou un type d'homme que Cervantes a découvert. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, il n'y a pas longtemps que vivait un de ces hidalgos qui ont lance au râtelier, vieille rondage, maigre à ridelles et levrier de chasse. Un pot-au-feu avec un peu plus de bœuf que de mouton, et le soir, d'ordinaire, un hachis de viande. Des œufs au lard le samedi, le vendredi des lentilles, et le dimanche, un pigeonneau en supplément venait à bout des 3/4 de son revenu. Le reste faisait les frais d'un pourpoint de bon drap, de choses de panne avec des pantoufles du même, pour les jours de fête, car les jours de semaine, il s'accommodait d'un habit de serge des plus fines. Il entretenait chez lui une gouvernante qui avait passé 40 ans, une nièce qui n'en avait pas 20, un valet, à la fois de ville et de campagne, bon à sceller le cheval, comme à manier la serpette. Notre hidalgo, frisé la cinquantaine, était de complexion robuste, peu fourni de chair, le visage sec, grand lefteau et fort ami de la chasse. On prétend qu'il portait le surnom de Quijada ou Quesada. Il y a sur ce point quelques divergences entre les auteurs. Mais d'après les conjectures les plus vraisemblables, il s'appelait Quijana, peu importe. Il suffit que dans notre récit, nous ne nous écartions point de la vérité. Il faut donc savoir que notre hidalgo, dans les moments qu'il n'avait rien à faire, ce qui lui arrivait tout au long de l'année, s'occupait à lire des livres de chevalerie d'une telle ardeur qu'il en vint à oublier presque complètement et la chasse et l'administration de ses domaines. Cette passion, cette extravagance, s'élevèrent au point qu'il vendit plusieurs arpents de terre à semer pour acheter des romans de chevalerie dont il entassa chez lui tout ce qu'il put. Parmi ses livres, aucun ne lui semblait valoir celui que composa le fameux Feliciano de Silva, car la clarté de sa prose et ses inextricables propos n'étaient que perles à ses yeux, surtout lorsqu'il arrivait aux déclarations et aux lettres d'amour, où l'on trouve fréquemment des traits de ce goût. « La raison de la déraison que l'on fait à ma raison trouble de telle sorte ma raison, que c'est avec raison que je me plains de votre beauté. » Ou encore, « Les cieux qui de votre divinité divinement vous fortifient avec les étoiles, vous font bien méritant du mérite que mérite votre grandeur. » Le jugement du pauvre gentilhomme s'y usait. Il perdait le sommeil à tâcher d'y comprendre goutte et à leur tirer le sens des entrailles, ce qu'Aristote lui-même n'aurait pu faire s'il fût ressuscité tout exprès. Il s'égarait dans le compte des blessures que Don Belianis donnait au recevé, s'imaginant que par quelque excellent maître qu'il eût été pensé, il ne pouvait manquer d'avoir le visage et le corps entier couvert de cicatrices, de balafres. Néanmoins, Il louait dans l'auteur cette façon galante de terminer son livre par la promesse d'en finir avec cette interminable aventure. Et souvent, il lui prit envie de prendre la plume et de l'achever au pied de la lettre, comme il y est annoncé. Il l'aurait fait, sans aucun doute. Il s'en serait même tiré à son honneur si d'autres pensées plus tenaces et de plus grandes conséquences ne l'en eussent détourné. Mais une fois, avec le curé du village, homme docte et gradué à Sigüenza, il avait discuté cette question. Quel fut le meilleur chevalier, Palmerin d'Angleterre ou Amadis de Gaulle? Mais maître Nicolas, barbier du même pays, assurait que l'une approchait du chevalier Phébus, et que si quelqu'un pouvait lui être comparé, c'était le seul Don Galaor, frère d'Amadis de Gaulle. Car celui-là était à toute épreuve, ce n'était pas un chevalier minaudier pleurnichard comme son frère, et pour le courage, il ne lui cédait pas d'une ligne. Bref, il s'enfonça si bien dans sa lecture qu'il passait ses nuits à lire du soir au matin et ses jours de l'aube au crépuscule. Tant il fit qu'à force de peu dormir et lire beaucoup, le cerveau lui sécha de manière qu'il en perdit l'esprit.
Emmanuel Robles a lu ce soir les premières pages de Don Quichotte de Cervantes. Le livre de chevet. C'était une émission de Jean-Vincent Bréchignac. Assistante de production, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 avril 1968. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur franceculture.fr.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir au berceau.